VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 10 mai 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Arnold Butson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, l'UDPS reporte le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi après les incidents d'hier à son QG de Limété.
Par ailleurs, le président Joseph Kabila a nommé hier un gouvernement de 60 membres dirigé par le Premier ministre Bruno Tshibala, un dissident de l'UDPS.
Quatre casques bleus de la MINUSCA tués en République centrafricaine dans une attaque imputée à des éléments anti-Balaka.
Ici à Washington, limogeage surprise du directeur du FBI, James Comey, par le président Donald Trump.
Et autre surprise, le président Trump recevra à la Maison-Blanche le russe Sergueï Lavrov à Washington pour des entretiens avec son homologue, le secrétaire d'État Rex Tillerson.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, la dépouille mortelle de l'opposant historique Étienne Tshisekedi ne sera plus ramenée à Kinshasa ce vendredi, contrairement à ce qui avait été prévu. L'UDPS, son parti, a annoncé le renvoi du rapatriement à une date ultérieure, après une vive tension et des incidents ce mardi à son siège de Limété. Des incidents que ce parti d'opposition condamne fermement et impute au pouvoir de Joseph Kabila. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans un communiqué rendu public ce mardi 9 mai, peu avant minuit, l'UDPS condamne la brutale fermeture de sa permanence par des agents de l'ordre. Le parti dénonce ce qu'il qualifie de cabale montée par le pouvoir en place pour empêcher l'arrivée à Kinshasa de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi et tient pour responsable le pouvoir de toutes les pertes tant en vies humaines qu'en biens matériels avant d'exiger la libération de son siège national ainsi que la restitution sans délai de tous ses biens. Ensuite, le parti annonce, au nom de la paix et après concertation avec la famille biologique de son défunt président, la décision de renvoyer à une date ultérieure le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, initialement prévu le 12 mai courant. Quelques heures avant la publication de ce communiqué, la ville de Kinshasa, à travers une correspondance signée par son gouverneur, rejetait déjà la demande de l'UDPS d'inhumer Étienne Tshisekedi au siège de son parti dans la commune de Limété où des travaux pour ériger un mausolée étaient déjà en cours. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a nommé hier un gouvernement de 60 membres dirigé par le Premier ministre Bruno Tshibala, un dissident du rassemblement de Félix Tshisekedi qui conteste sa nomination. La quasi-totalité des personnalités de l'ancienne équipe ont été reconduites. La nouvelle équipe fait toutefois une place à 4 députés dissidents de l'UDPS. La mission principale du nouveau gouvernement est d'organiser en principe, avant la fin de cette année, l'élection d'un successeur au président Kabila au pouvoir depuis 2001. Nous reviendrons en seconde partie de cette édition sur ce développement.
La mission des Nations Unies en Centrafrique a vécu sa journée la plus sombre depuis la fin de l'opération militaire française Sangaris en octobre 2016. 4 casques bleus ont été tués, 10 autres blessés et un porté disparu dans une attaque attribuée à un groupe armé anti-Balaka. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné cette attaque et souligné que les attaques contre les casques bleus des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre. Il a demandé aux autorités centrafricaines d'ouvrir une enquête pour que les responsables répondent rapidement de leurs actes devant la justice.
Les États-Unis ont suspendu une aide directe au Kenya en raison d'accusations répétées de corruption et de mauvaise gestion. Il s'agit d'un montant de 21 millions de dollars qui devait aller au ministère kenyan de la Santé, Jacques Aristide.
C'est l'ambassade américaine à Nairobi qui a annoncé cette suspension pour une période indéterminée. La somme a fait partie des 650 millions de dollars d'aide sanitaire annuelle au Kenya. Le ministre de la Santé a confirmé la décision qui survient après un scandale présumé de corruption portant sur une somme de 49 millions de dollars l'an dernier et une grève de médecins et d'infirmiers qui a duré 3 mois. Mais Cléopa Mailou a assuré que cela ne touchait pas les services de santé les plus essentiels. L'USAID, l'Agence américaine d'aide au développement, ne paiera plus notamment pour des rencontres et ateliers et des voyages à l'étranger. La décision américaine intervient à peine 3 mois avant la présidentielle du 8 août au Kenya.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Grosse surprise ici à Washington. Hier, le président Donald Trump a limogé James Comey, le directeur du FBI, la police fédérale américaine. Dans une lettre sans détour, M. Trump a dit qu'il mettait fin aux fonctions de M. Comey avec effet immédiat, ajoutant que ce dernier n'est pas capable de diriger de manière efficace le FBI. De façon générale, les parlementaires républicains ont approuvé et leurs collègues démocrates désapprouvé. Jean-Roger Bion.
Les raisons de son limogeage ont été données dans 2 lettres séparées du ministre de la Justice Jeff Sessions et de son adjoint Rod Rosenstein. En substance, ils accusent M. Comey d'avoir commis de sérieuses erreurs dans la manière dont il a traité les conclusions de l'enquête sur les emails privés de Hillary Clinton, l'adversaire démocrate de M. Trump lors de la présidentielle de novembre dernier. En d'autres termes, et selon M. Rosenstein, l'ex-directeur du FBI avait usurpé les pouvoirs de la ministre de la Justice quand M. Comey a conclu que Mme Clinton n'allait pas être poursuivie en justice. Les observateurs se demandent pourquoi le président Trump a décidé de ne sévir que maintenant, alors que les reproches faits à M. Comey remontent à la campagne de l'année dernière. La décision de M. Trump a surpris plus d'un à Washington et au Congrès, le républicain Richard Burr, président de la commission sénatoriale du renseignement, s'est dit troublé par le moment choisi et les raisons données pour le limogeage de M. Comey, qualifiant son départ de perte pour le FBI et la nation. Côté démocrate, des membres de la commission judiciaire ont fait allusion à l'ancien président Richard Nixon, qui dans les années 70 avait limogé des officiels qui enquêtaient sur lui pendant le scandale du Watergate. Le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré avoir dit au président qu'il commettait une grosse erreur en limogeant M. Comey, alors qu'il y a différentes enquêtes liées à la campagne de M. Trump.
Le président Trump a donné au Pentagone l'autorisation d'équiper les éléments kurdes des forces démocratiques syriennes, une décision qui ne plaira pas à son allié de l'OTAN, la Turquie, qui les qualifie de terroristes.
Par ailleurs, le président Trump recevra aujourd'hui à la Maison-Blanche le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. La rencontre au plus haut niveau du président américain avec un responsable russe depuis son arrivée au pouvoir. Pour son premier voyage à Washington depuis 4 ans, M. Lavrov devait initialement seulement rencontrer son homologue américain Rex Tillerson pour chercher son soutien à un projet russe censé faire baisser les violences en Syrie.
Au Yémen, au moins 34 personnes sont mortes du choléra et plus de 2000 cas suspects ont été recensés en seulement 11 jours dans ce pays déchiré par la guerre depuis plus de 2 ans. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme, John Linden.
Ces chiffres ont été donnés hier par un responsable de l'OMS à Sanaa. Médecins sans frontières s'est déjà inquiété du nombre croissant de cas de choléra et de diarrhées sévères au Yémen, précisant avoir traité depuis fin avril près de 600 cas dans 5 provinces. Shinjiro Murata, chef de la mission des Médecins sans frontières sur place, dit craindre que la maladie se propage et échappe à tout contrôle. Citant le ministère de la Santé, Médecins sans frontières a fait état de quelques 310 cas suspects de choléra dans la seule capitale Sanaa, où la situation sanitaire se dégrade de jour en jour à cause d'une grève des éboueurs qui réclament des salaires impayés. Beaucoup d'hôpitaux ont été détruits et les agents de santé ne sont pas payés depuis des mois. L'OMS classe maintenant le Yémen comme l'une des plus grandes urgences humanitaires de la planète, avec la Syrie, le Soudan du Sud, le Nigeria et l'Irak.
Dans le nord-ouest des États-Unis, aucun signe de fuite radioactive n'a été constaté après l'effondrement hier d'un tunnel rempli de substances contaminées près d'un site nucléaire. Des centaines d'employés ont été évacués ou confinés. Abdourahmane Dia.
Le département de l'énergie précise que les tunnels contiennent des substances contaminées, mais qu'il n'y a pas de signe de fuite pour le moment. Les employés du complexe nucléaire de Hanford, au sud-ouest de Seattle, ont été évacués. D'autres ont reçu une alerte dans la matinée, leur demandant de rester confinés et de s'abstenir de manger et de boire. Selon les médias locaux, des travaux sur une route près d'un tunnel ont pu provoquer des vibrations, ayant conduit à l'effondrement d'un pont du terrain. Le vaste site de Hanford est considéré comme la plus grande poubelle nucléaire du continent américain. À l'origine, elle avait servi à produire le plutonium pour les deux bombes nucléaires larguées sur le Japon en 1945. Le dernier réacteur a été fermé il y a 30 ans, mais des fuites ont été détectées en 2013. Le gouvernement fédéral s'est engagé à nettoyer le site. Le groupe français Areva, associé à la gestion, parle de 170 cuves contenant 200 000 mètres cubes de déchets chimiques et radioactifs.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le FMI envisage cette année l'augmentation de 2,6% du produit intérieur brut en Afrique subsaharienne. Par contre, l'institution de Bretton Woods table sur une croissance de 0,8% pour les deux plus grandes économies, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le FMI précise que la dette publique a augmenté en Côte d'Ivoire, au Kenya et au Sénégal, et dans certains cas, les arriérés s'accumulent. Enfin, la sécheresse, les ravages perpétrés par les chenilles légionnaires et les problèmes de sécurité ont plongé la moitié des pays de l'Afrique subsaharienne dans l'insécurité alimentaire. Le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale pointait du doigt plusieurs manquements dans les activités de la finance mobile dans cette région. L'institution fustige la variété d'acteurs répertoriés et surtout l'attitude des banques. La volatilité des capitaux d'un acteur à l'autre échappe également au contrôle des institutions. Ce groupe regrette aussi le relatif vide juridique dans l'espace CEMAC où les règlements en vigueur ne comportent pas de réelles obligations contraignantes. L'économie congolaise devrait progresser de 3% à l'horizon 2018. Le dernier rapport de suivi de la Banque mondiale indique que l'augmentation de la production de pétrole du site de Moho Nord permettrait d'atteindre 350 000 barils par jour. Un autre facteur pour cette performance, c'est notamment l'exploitation de nouveaux gisements de gaz naturel par la société italienne Eni.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Il n'y a pas eu de miracle à Turin lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions.
Oui, pour la 9e fois de son histoire, la Juventus Turin disputera une finale de Ligue des Champions. Hier, au Juventus Stadium, le club italien a encore battu Monaco 2-1. On se souvient que lors du match aller au Stade Louis II, les Italiens avaient battu Monaco sur son terrain 2-0.
Et ce soir, le Real, presque déjà qualifié.
Vainqueur 3-0 au match aller la semaine dernière, le Real Madrid, 11 fois vainqueur de cette Ligue des Champions, qui a déjà battu l'Atlético en finale des éditions 2014 et 2016. Eh bien, les Madrilènes qui semblent bien partis pour atteindre une deuxième finale d'affilée aux dépens des Colchoneros. Le coup d'envoi, ce sera ce soir.
Match amical pour le Cameroun.
La Colombie affrontera le Cameroun en amical le 13 juin à Madrid avant l'ultime série de matchs de qualification au Mondial 2018, annonce la Fédération colombienne de football. La sélection colombienne, emmenée par l'Argentin José Pekerman, qui doit également affronter l'Espagne le 16 juin à Murcie. Côté Cameroun, champion d'Afrique en titre, les Lions indomptables sont deuxièmes du groupe B à 4 points du Nigeria après deux matchs. Dans le tournoi de qualification africain, on rappelle que seul le meilleur de chaque groupe est qualifié pour le Mondial, Idrissa.
JO 2024, bientôt le grand oral pour Los Angeles.
Et oui, à 4 mois de la désignation de la ville qui va organiser les Jeux Olympiques 2024, Los Angeles et Paris vont recevoir cette semaine la visite de la commission d'évaluation du CIO. C'est la métropole californienne qui ouvre le bal ce mercredi en présentant son projet sans risque. Les responsables de Los Angeles croient avoir une candidature qui peut redéfinir l'histoire olympique en réponse au surcoût budgétaire des précédents Jeux et à la frilosité croissante des gouvernements et des populations. On l'a vu, Idrissa, avec la défection des villes de Hambourg, Boston, Rome et Budapest dans la course à ces JO 2024. Allez, Idrissa, avec vous, un match cette nuit en NBA, le championnat nord-américain. Les playoffs se poursuivent.
Match numéro 5 du deuxième round entre les Spurs et les Rockets. San Antonio est revenu en force en battant Houston 110 à 107, menant la série 3 victoires à 2.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le nouveau gouvernement en RDC, le président congolais Joseph Kabila et le nouveau premier ministre Bruno Tshibala ont signé un décret publiant une liste des 60 membres du gouvernement devant conduire le pays aux élections en décembre 2017. L'UDPS et l'aile du rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi boycottent la nouvelle équipe gouvernementale et exige le poste de premier ministre. Eddy Issango a joint à Bruxelles le président de la coalition des Congolais pour la transition, Emery Damien Kalwira.
M. Kabila a épuisé ses deux mandats. Son parlement a aussi expiré depuis le 7 février 2017. Et par conséquent, l'évidence est là. Nous sommes en face d'un vide du pouvoir. Et ce qui est important aujourd'hui pour redonner l'espoir social et économique et aussi la paix au peuple congolais, c'est d'aller dans une transition sans M. Kabila.
Ce gouvernement est publié à la suite de la signature de l'arrangement particulier de l'accord du 31 décembre.
Un accord qui ne rencontre pas la volonté des Congolais, un accord qui ne peut pas être au-dessus de la Constitution, et un accord qui, par ailleurs, a apporté beaucoup plus de conflits qu'en en a résolu. C'est un accord qui a plutôt été porteur des germes des conflits, tout simplement parce que cet accord est en flagrante contradiction avec la Constitution et avec tous les Congolais. Donc, ici, les Congolais n'ont pas besoin de voir M. Kabila se soumettre à un spectacle de gouvernement qui ne dure pas. Vous voyez celui de Badibanga qui a terminé sans avoir jamais tenu un seul conseil des ministres. Les Congolais n'ont pas besoin que M. Kabila les empiffre des corruptions des masses en utilisant l'argent de l'État. Les Congolais ont besoin d'une nouvelle gouvernance, une gouvernance d'éthique morale, une gouvernance d'éthique politique, ce qui n'est pas le cas.
Mais cette question a été réglée avec les dialogues tenus sous la médiation des évêques.
Vous parlez des évêques, d'ailleurs les évêques eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils soient dans l'idée de ce fameux gouvernement d'aujourd'hui. Nous sommes en face d'un banditisme d'État. En réalité, le Congo n'a ni président de la République, ni parlement. Le Congo n'a aucune institution. Et ce qu'ils viennent se faire, c'est un coup d'État supplémentaire. Par conséquent, ils n'ont aucun pouvoir de prendre un quelconque décret ou d'engager la République démocratique du Congo. Et même les récentes révélations sur la corruption d'une société israélienne pour mener le lobbying visant à maintenir M. Kabila au pouvoir, c'est aussi un crime économique, passible de poursuites judiciaires. Et ça sera fait dès la fin de M. Kabila, dans quelques jours. Donc c'est un gouvernement qui ne fera rien, qui ne va pas travailler, tout simplement parce qu'il ne répond pas aux attentes des Congolais.
Mais ce gouvernement a pour objectif d'organiser les élections, selon l'accord, avant la fin de 2017, pour qu'on revienne à la normale.
Il est démagogique, il est malsain d'oser penser qu'en 7 mois, on peut tenir une quelconque élection dans un pays aussi grand comme le nôtre.
Emery Damien Kalwira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au large de la Libye, près de 200 personnes sont toujours portées disparues suite au naufrage de 2 embarcations de fortune qui tentaient de rejoindre l'Europe. Près de 8000 migrants sont actuellement dans les centres de rétention et l'Organisation pour les migrations internationales aide dans l'organisation de leur retour dans leur pays d'origine. Pour un état des lieux, Solange Niamoulissa a joint Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève.
Ces migrants dont on parle et qu'on dit qu'ils sont portés disparus, bien évidemment, pour la plupart, malheureusement, on ne retrouvera jamais les corps. Il s'agit de statistiques qui sont basées sur les témoignages des rescapés et nous savons que ces 200 morts sont probablement disparus à jamais. Cette véritable crise humanitaire qui se déroule sous nos yeux en Méditerranée, il faut rappeler que depuis le début de l'année, ce sont près de 50 000 personnes qui sont arrivées en Europe et dont la majorité en Italie. Ça représente une véritable augmentation par rapport à la même période l'année dernière, aussi bien en nombre d'arrivées qu'en nombre de morts, avec plus de 1300 personnes qui ont perdu la vie depuis le 1er janvier.
Aujourd'hui, on parle des 7 000 à 8 000 migrants retenus dans les centres de détention en Libye. Combien des migrants sont retournés depuis le début de l'année et combien sont sur la liste d'attente ?
Écoutez, vous savez, l'OIM estime à entre 500 000 et 700 000 les migrants qui sont présents en Libye actuellement, depuis le début de la crise. Bien évidemment, toutes ces personnes ne sont pas des migrants potentiels avec, en partance pour l'Europe, c'est évident, mais beaucoup sont coincés dans ces centres de détention. Pour nous, il est fondamental de pouvoir offrir une alternative à toutes ces personnes qui sont bloquées dans le pays, qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas prendre le risque de traverser la Méditerranée et qui n'ont plus les moyens, aussi bien physiques que financiers, de repartir chez eux. C'est pourquoi l'OIM organise une assistance au retour volontaire, et dans le cas de la Libye, il s'agit davantage de retours humanitaires, pour tous ceux, des migrants en Libye, qui désireraient repartir chez eux. Depuis le début de l'année, nous avons aidé l'aide au retour de quelques centaines de migrants, essentiellement d'Afrique de l'Ouest.
Quelle est la situation de ces migrants dans les centres de détention ?
Les conditions de vie dans ces centres de détention sont parfois alarmantes, c'est vrai. L'OIM a eu accès à quelques-uns de ces centres. Bien évidemment, la situation dépend aussi de la stabilisation politique et sécuritaire du pays. Et nous travaillons main dans la main avec le gouvernement libyen reconnu pour pouvoir améliorer ces situations-là. Mais entre-temps, nous essayons de procéder un maximum de retours humanitaires possible.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève. Parlons cinéma avec les films camerounais qui peinent à être vus sur place. Principale difficulté, il n'y a aucune salle de cinéma ouverte au public au Cameroun, celle qui existait enfermée. Une structure locale, cinéma numérique ambulant, a primé 4 œuvres cinématographiques camerounaises plébiscitées lors des projections publiques. Reportage de notre correspondant sur place, Emmanuel Juntap.
Sous les ovations des maigres publics, le lauréat reçoit des mains du chef de la mission de l'Union européenne au Cameroun le prix du jour. Nous sommes dans la petite salle de projection de l'Institut français de Yaoundé. La fiction camerounaise État civil de Cyril Masso, ainsi récompensée, est pourtant un véritable plaidoyer pour l'enregistrement dès la naissance des enfants au Cameroun dans les registres d'état civil. C'est l'association Cinéma Numérique Ambulant Cameroun qui a fait connaître cette fiction dans les quartiers et villages du Cameroun, comme avec les 3 autres productions camerounaises récompensées au cours de la même cérémonie. Stéphanine Dogmo, présidente de Cinéma Numérique Ambulant.
Il y a de très bons films camerounais que le commun des Camerounais ne connaissent pas parce que ce sont des films qui ne sont pas accessibles du tout. Depuis 2012, nous avons diffusé jusqu'ici presque 300 films, près de 700 projections cinématographiques, plus de 250 000 spectateurs.
La diffusion des films camerounais au Cameroun est toute une problématique. Elle dépasse largement le cadre de l'inexistence des salles de cinéma. Olivier Franck Demba, directeur du Festival des courts-métrages Yaoundé, tout court, explique.
Aujourd'hui, il faut nécessairement avoir des visas d'exploitation. Et maintenant, les films que l'on choisit doivent respecter une thématique. En dehors de la thématique, il faut maintenant avoir des films qui ne sont pas contre le système en place. Et pour la liberté d'expression, pour la liberté de créativité, nous, les organisateurs des festivals, c'est extrêmement difficile. C'est un combat permanent tous les ans.
À cela, ça ajoutent les pesanteurs techniques et financiers qui plombent la diffusion des films camerounais. Blaise Pascal Tanguy est un jeune réalisateur camerounais qui réside en France. Son documentaire sur les métiers de la rue au Cameroun a été projeté dans 53 localités grâce à Cinéma Numérique Ambulant.
On n'a pas de technicien vraiment formé. Quand vous regardez à l'écran, nos documentaires, quand vous regardez un documentaire produit par Planète, il y a un grand fossé au niveau de la qualité. Nos gens n'ont pas encore compris que le cinéma a une place de choix et que la culture permet vraiment de vendre l'image d'un pays.
Le marché de la diffusion des films camerounais est sans opérateur. La dernière salle de cinéma a fermé en 2009 pour faire connaître leurs œuvres au grand public. Les réalisateurs camerounais se tournent vers l'Institut français Laure Dominguel, animatrice culturelle à l'Institut français à Yaoundé.
Comme on n'a pas de distributeur camerounais, la difficulté c'est de trouver ces réalisateurs-là. La plupart viennent me proposer des productions. Si le thème est pertinent, si le film voilà, est une réalisation pertinente également, eh bien il a tout à fait sa place à l'Institut français.
L'horizon s'annonce encore plus sombre dans la diffusion des films camerounais au Cameroun, le gouvernement n'ayant pas en vue de construire d'aussitôt des salles de cinéma. Yaoundé, Emmanuel Jolutap, VOA Afrique.
Dans le cadre de son projet de développement à l'international, la NBA, la Ligue américaine de basketball professionnel, va ouvrir sa 6e académie mondiale au Sénégal. Ce premier centre de la NBA en Afrique sera mis en place grâce au partenariat avec le Seed Project de Thiès. Cette académie sénégalaise de basketball a permis l'éclosion de talents. Plusieurs joueurs internationaux en sont issus comme Gorgui Dieng, pivot des Minnesota Timberwolves. C'est justement à l'occasion du 19e anniversaire du Seed, fêté le week-end dernier, que la NBA Academy Africa a posé ses premiers jalons de Dakar. Le reportage de notre correspondant Sedina Abagay.
Plusieurs jeunes venus d'un peu partout d'Afrique ont participé à la première phase de détection de la NBA Academy Africa. L'occasion pour Amadou Balofane, vice-président de la NBA Afrique, d'expliquer le choix porté sur le Sénégal.
Ce qui détermine ce choix, c'est la qualité du partenaire que nous pouvons avoir sur le terrain. Par exemple, en Australie, le partenariat avec l'Australian Institute of Sport. Et ici, comme on a eu à mener beaucoup d'activités sur le terrain, il y a une longue histoire entre le Sénégal et la NBA. Il y a une dizaine de joueurs du Sénégal qui ont joué à NBA. C'est juste un partenariat naturel entre la NBA et Seed.
Gorgui Dieng, joueur NBA et pivot de Minnesota, se félicite de l'installation de la NBA Academy au Sénégal et espère que ce centre sera le grenier du basketball africain.
NBA Africa.
L'implantation de la NBA Academy Afrique au Sénégal est une excellente chose. Il n'y en a que 6 dans le monde, alors si le Sénégal est choisi pour en abriter un, ça doit être un honneur et une fierté pour nous tous. Je pense que ça va aider les jeunes du Sénégal et de l'Afrique entière à avoir une bonne préparation pour éventuellement intégrer la NBA.
Au-delà de l'aspect sportif, l'éducation aura une place de choix dans la formation. Jean-Jacques Conceição, cette fois champion d'Afrique avec l'Angola, espère que ce centre servira aussi à former de futurs cadres africains.
Pour aider d'abord les jeunes à connaître le basket et à vouloir aussi étudier parce que l'école c'est le plus important, c'est le numéro un de tout parce que l'étude tu le gardes toute ta vie, le basket tu ne peux pas le garder toute ta vie, mais l'étude c'est le plus important, c'est les études. La fondation CED, ils sont là pour aider, pour faire tout, de donner des opportunités aux jeunes d'aller plus loin.
Le journaliste sénégalais Ahmadou Bamba Kassé estime que la NBA Academy Africa augmentera la compétitivité du basketball africain et la qualité des ressources humaines chargées de la formation.
Le fait que le centre soit ici boostera certainement les jeunes sénégalais qui voudront intégrer ce centre.
NBA Academy Africa est la matérialisation du projet de la Ligue américaine de basketball pour le développement de la discipline sur le continent. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française face à l'extrême droite. Pendant sa campagne, le futur locataire de l'Élysée n'a pas précisé quelle politique africaine il mènerait. Il y aura sans doute des priorités, économie, immigration, sécurité. L'Afrique peut-elle attendre quelque chose de ce jeune président? Sera-t-il en rupture avec l'héritage de la France-Afrique? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, camp universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
En direct de Washington, voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Algoton pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.